Alors plus tard, donc à surveiller, ça va survenir au cours des prochaines minutes, il y aura un point de presse à Ottawa. D'abord, on n'a toujours pas confirmé ce premier cas du nouveau virus, le coronavirus. Je dis toujours coronavirus parce que je pense au cœur. Le coronavirus qui est apparu en Chine, bien sûr, et qui on pourrait avoir le premier cas à Toronto. Mais ce n'est pas encore confirmé. Et les autorités donc de la santé à Ottawa vont faire le point dans les prochaines minutes. Marc Santerre est synonyme de football. C'est un ancien joueur de football. Il a formé tellement de bons et grand joueur de football. Il a été entraîneur-chef d'une équipe légendaire, les Spartiates du Vieux-Montréal, pendant 20 ans. Il est même allé enseigner le football à nos cousins français, puisqu'il a été entraîneur-chef de l'équipe nationale senior de France. Il a gagné également 2 championnats du monde junior avec l'équipe Canada. Et il signe aux éditions La Presse un ouvrage très intéressant, un coach parmi des héros, un récit sportif. Marc Santerre, bonjour.
Bonjour.
Marc, est-ce que... qui me disait d'ailleurs qu'il y a bien hâte à dimanche prochain au Super Bowl.
Mm-hmm. C'est mes deux équipes qui sont là.
Votre parcours n'a pas croisé Laurent Duvernay-Tardif?
Bien sûr.
Oui.
Moi, j'ai recruté Laurent quand j'étais coach au Carabin.
Ah ben lui, oui, c'est vrai. Oui. J'avais oublié de mentionner ça dans votre CV. Oui.
Lui jouait pour André Grasset, puis nous, on l'avait évidemment dans notre radar. Mais finalement, il a été étudié à l'Université McGill, mais on l'a recruté ardemment.
Quel a été, je vais passer tout de suite, parce que le temps passe tellement vite en entrevue, quel est, selon vous, le joueur québécois qui a été le meilleur, le plus talentueux joueur québécois de football américain?
Ben écoutez, on doit dire Laurent Tardif, Duvernay est pas mal.
Oui, parce qu'il est rendu au Super Bowl.
Ouais, puis c'est spécial, c'est une personne spéciale, puis il joue régulièrement avec une équipe qui est une équipe de pointe. Mais moi, j'ai un coup de cœur évidemment pour Bruno Eppel parce que je l'ai coaché, qui a eu une belle carrière avec les Alouettes. Éric Lapointe qui a joué beaucoup aussi avec les Alouettes. J'ai un coup de cœur pour mes joueurs que j'ai coachés et qui ont joué professionnel.
On disait tout le temps que c'était un Québécois et qui était d'ailleurs spectaculaire. Malheureusement, sa carrière a été handicapée par plusieurs blessures. C'était Chimanga Biaka Butuka.
Bien sûr, Chimanga, je l'ai connu aussi parce que je l'ai recruté quand il a sorti du secondaire. Et on pensait qu'il viendrait jouer pour les Spartiates à l'époque.
Et il avait joué pour qui?
Pour Vanier. Alors, il est allé
les
jouer.
Cheetahs.
Oui, les Cheetahs de Vanier.
Ça, c'était vos ennemis, ça.
Ah, bien sûr, juré. Nos ennemis jurés. Mais Chimanga a joué juste une saison parce qu'il avait un talent extraordinaire. Et vous avez raison de le mentionner. C'est sans doute celui qui avait le plus de talent au Québec.
Athlétique, là.
Oui. Malheureusement, sa carrière s'est terminée en raison d'une blessure. Mais moi, j'étais chez lui, dans sa famille, lorsque Lloyd Carr de l'Université Michigan lui a offert un scholarship, une bourse d'études à l'Université Michigan. Et c'était tout un moment. Il y avait plein de frères qui étaient autour et c'était évidemment leur héros à la famille, là.
On a eu un excellent receveur de passe, mais dont la vie a pris une très mauvaise direction, impliqué dans un accident, non pas un accident, mais un incident criminel qui jouait pour les Seahawks de Seattle.
Oui.
C'était Kane, hein,
Kane,
je crois.
Tommy Kane. Il venait de Montréal, effectivement. Mais moi, Tommy, je l'ai connu parce qu'à un moment donné, il est venu, il m'a demandé de venir parler à nos joueurs dans un camp. Et c'est un jeune homme particulier. C'est un, évidemment avec beaucoup, beaucoup de talent, mais qui a probablement suivi des mauvaises influences. Puis ça l'a pas tourné comme il faut pour lui, mais c'était un joueur exceptionnel aussi.
Marc Santerre, je disais, dès qu'on mentionne le nom Marc Santerre, immédiatement on pense au football, mais on pense au caractère humain que d'être coach, de la carrière que vous avez suivie. Il y a même une statistique que j'ai notée, le nombre de vos joueurs qui ont pleuré pendant un de vos discours dans la chambre.
Ça, c'est
291.
Ça, c'était plus une blague de l'éditeur, mais non, écoutez, j'ai eu beaucoup de plaisir à diriger les jeunes hommes que j'ai dirigés parce que c'était des gens qui venaient réussir. Et on a réussi ensemble une belle histoire, qui est l'histoire des Spartiates. Et eux ont réussi aussi de belles histoires, qui est leur histoire personnelle. Et ils ont profité du Cégep du Montréal, de leur passage au Cégep, mais particulièrement dans l'équipe de football des Spartiates, pour se convaincre qui sont capables de réussir s'ils font les bons choix, puis s'ils font les bonnes choses. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours ému beaucoup. Alors, quand je parlais à ces gars-là, j'étais toujours très ému, et je pense qu'ils s'en sont rendus compte, et c'est ce qui fait que les gens ont beaucoup aimé qu'on leur parle.
Les joueurs se rappellent de coach émotif, et il n'y a pas de mal à ce qu'un coach pleure. Dick Vermeil, qui a gagné le Super Bowl avec les Rams, qui a été longtemps le coach des Eagles de Philadelphie, était un coach émotif comme ça. Mais ses joueurs se ralliaient derrière lui.
Je ne peux pas dire que moi, j'ai pleuré beaucoup, mais j'ai fait pleurer quelques joueurs. Mais l'idée, ce n'était pas de faire pleurer. D'ailleurs, j'ai une scène dans le livre dont je parle où, justement, on a trop pleuré. Et c'était une erreur de coaching à l'époque que j'avais faite de faire pleurer, d'amener les joueurs à être trop émotifs, parce que avant un match, les émotions, ça peut être aussi une arme à double tranchant et nuire à la performance.
Donc, et c'est important ce que vous dites, Marc Santerre, à une semaine du Super Bowl, une équipe ne doit pas arriver avec un débordement d'émotions, mais gérer son émotion tout au cours du match.
Absolument. C'est une des leçons que j'ai tirées de mes 27 ans dans le coaching, c'est qu'il y a des matchs qui créent eux-mêmes des émotions énormes. Et à ce moment-là, le coach, autant que les joueurs, doivent apprendre à doser et à gérer les émotions.
Ils n'ont pas en rajouter.
Non, pas en
c'est
rajouter.
Ça.
Et il y a des joueurs qui sont capables de l'être plus émotifs et d'autres mieux gérer encore.
Mais ça, c'est l'art du coaching. C'est d'essayer de tempérer ceux qui le sont trop et de souffler sur les braises de ceux qui sont pas assez enflammés.
Le coach doit le savoir.
Oui.
C'est un sport où l'engagement est total, il faut le dire, hein. On ne peut pas gagner si on n'est pas un joueur d'équipe. C'est vrai ou c'est faux, Marc?
Ben,
vous avez gagné tellement de championnats avec les Spartiates.
Ouais. Ben, on a gagné
deux championnats juniors.
Oui, puis on a gagné 9 bols d'or, ce qui est durant la période où j'étais là, ce qui était quand même spécial, 5 de suite. Mais je vous dirais, l'engagement, c'est la clé. D'ailleurs, j'en parle dans le livre. L'engagement, c'est le point de départ de tout. Et j'ai appris, moi, pendant les années où j'étais là, que valait mieux recruter un jeune engagé qui se retrouve dans l'identité d'une équipe qu'un jeune talentueux. Et nous, on a toujours, quand j'étais là, préféré des jeunes qui avaient une bonne raison d'être avec nous et qui défendaient cette raison-là que quelqu'un qui avait beaucoup de talent puis qui voulait simplement utiliser ou se servir de l'équipe pour exploiter son talent.
C'est pas un sport dans lequel tu peux briller seul.
Non, pas du tout. Le football, c'est le sport d'équipe par excellence. Et c'est pour ça que on pratique plus qu'on joue. Hein? On a plus de temps à l'entraînement que de temps en joute, parce qu'il y a une synchronisation de gestes. Tout doit arriver au bon moment pour que ça marche. Et pour ça, il faut s'entraîner. Puis il faut surtout avoir confiance que le geste qui vient avant le nôtre va être posé.
Est-ce que Marc Santerre pense que le football, en tant que sport, est à la croisée des chemins depuis, évidemment, qu'on a sensibilisé les athlètes qui pratiquent ce sport au danger de commotion cérébrale, avec, bien entendu, des conséquences graves qui peuvent mener à des morts prématurées. Est-ce que ça va avoir un impact important pour l'avenir du football?
Il est possible que ça fasse peur, évidemment, et c'est normal. Je pense que c'est un peu aussi épeurant de savoir que les contacts multiples à la tête peuvent créer des pathologies importantes. Sauf que ça serait dommage que les gens arrêtent de jouer au football ou que les gens cessent de regarder ces matchs-là, parce que il faut simplement essayer d'encadrer le sport puis de s'assurer que d'abord, il n'est pas joué à trop jeune âge. Et de contrôler le... Moi, quand j'ai commencé à coacher, il n'y avait pas une pratique qui se faisait sans contact physique. Aujourd'hui, puis même dans la fin de ma carrière, on c'est plus comme ça qu'on coachait. On coachait avec des sous contrôle. On ne mettait pas l'emphase sur le contact physique, mais plutôt sur l'exécution.
Mais
on laissait ça au match.
Mais on est à peu près du même âge, Marc, en fait, de la même génération et tout ça. On a grandi, nous, en regardant la NFL, avec des légendes dont l'objectif était d'aller tuer le corps arrière. Dick Butkus, Jack Ham, des gens dont on a glorifié leur violence absolue. Plus ils frappaient fort, plus ils frappaient tard le plaqué, ou plus ils frappaient à la tête. Évidemment, je ne les blâme pas, c'était à ce moment-là la commande.
Mais c'est un exemple, justement, de ce que je dis, c'est que maintenant, on ne peut plus faire ça.
Les règlements ont changé. Et on est pénalisé fortement.
Absolument. Et même au niveau du coaching, on a changé aussi la façon de coacher pour limiter les impacts. du contact puis de la violence.
Mais y a-t-il encore des jeunes que vous avez, ou des jeunes que vous avez coachés qui ont cet esprit un peu de violence? Il y a des gens qui ont quand même des caractères, qui ont quand même des tempéraments.
Bien sûr, et c'est ça la beauté du football, c'est que puis du football étudiant, entre autres, c'est que ça canalise toute cette, je dirais, cette agressivité. Je dirais pas violence, mais l'agressivité dans quelque chose de positif. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un exécutoire à tout ça, ça va se déverser quelque part ailleurs. Et moi, j'ai connu beaucoup de jeunes qui ont profité du football pour déverser là, le trop-plein d'agressivité là, dans un sport. Puis c'était entre deux sifflets avec des règles bien précises. Puis après ça, ils sortaient, puis c'était sorti.
Aux États-Unis, Marc Santer, vous qui êtes avocat, diplômé, donc avocat de formation, aux États-Unis, l'association entre le caractère académique d'une bourse d'études et le caractère athlétique, les deux vont ensemble. Évidemment, il y a des gens qui sont toujours un petit peu suspects en disant « bon, il a étudié à telle université, à Michigan ou à Notre-Dame, mais c'est pas nécessairement les études. » Non, 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 c'est très sérieux. Et ici aussi, au Québec,
bien sûr.
Il y a des règles. Il faut avoir sa note de passage pour aller jouer le samedi après-midi.
Absolument, il y a des règles très bien définies, autant au niveau collégial qu'au niveau universitaire. Il faut avoir passé un minimum de crédits ou un minimum de cours pour être éligible. Et ça, ben, c'est la beauté aussi du sport étudiant, c'est que ça propulse aussi les jeunes joueurs vers des objectifs académiques.
Et les garder à l'école.
Bien sûr, c'est ça qui est la persévérance.
Il y a peut-être des gens, Marc Santer, il y a peut-être des joueurs qui n'auraient pas eu le parcours académique qu'ils ont s'il n'y avait pas eu en parallèle le sport d'élite du football.
J'en connais plein. Et il y en a plein dont je parle dans ce livre-là.
Et voilà, parce que c'est un récit sportif. Vous racontez avec émotion votre passage dans la grande université de Michigan. Mm-hmm. Avec Ray Lalonde, on a fait entendre la chanson Thème de Michigan l'autre jour, qui se sont fait donner une volée par Ohio State, leurs pires ennemis. Dans le match suivant, Thérèse et moi, on est allé visiter le stade des Buckeyes. D'Ohio State.
Effectivement.
Parlez-moi de votre... Je sais pas. Un commentaire, une admiration du système collégial athlétique américain.
Ben, c'est que c'est ce que j'aime et puis j'apprécie dans ça, c'est qu'on a permis à ces jeunes-là qui jouent au football, entre autres le football, d'éliminer ce qui pourrait les empêcher d'avoir une vie scolaire puis une vie sportive d'excellence. On leur a donné des bourses d'études. On donne à la plupart des bourses d'études.
Et ça coûte très cher, hein?
Oui,
c'est-à-dire, c'est pas que ça coûte très cher, c'est qu'une bourse d'études, ça vaut une fortune.
Bien sûr, et ça leur permet, et puis moi j'en ai vu plein, là, des gars qui, parce qu'ils avaient une bourse d'études, ont pu se concentrer sur le sport, puis sur leur école, sur leurs études, sans avoir à se soucier de payer payer un appartement.
C'est des dizaines de milliers de dollars.
Énorme, c'est énorme. Aux États-Unis.
Quelqu'un qui obtient une bourse d'études là, à Michigan, Michigan State, ils disent tout le temps, si t'es moins bon, tu vas à Michigan State. Je parle académiquement parlant. Mais ça vaut très cher, USC.
Ah oui,
c'est des bourses d'études de 50 000 $ par année, à peu près.
Oui, oui, oui. C'est un grand cadeau qu'on se fait quand on est... quand on est recruté puis qu'on reçoit une bourse d'études dans des universités américaines. Et même si ce n'est pas des grosses universités comme Michigan, il y a des jeunes qui vont à l'Université de Buffalo, à l'Université de New Hampshire, à l'Université
ou comme Maine. Bruno Eppel à Western Michigan.
Absolument. Et ça représente quand même beaucoup d'argent, puis ça représente surtout l'occasion de se concentrer sur les bonnes choses pour réussir.
La culture est différente ici, quand même.
Ah, c'est sûr.
C'est dommage parce qu'il y a il y a quand même du talent ici en football.
Bien sûr. Mais ici, c'est bien quand même. Là. On a quand même de l'argent un peu pour aider les jeunes et les études sont moins chères aussi. Alors, au niveau universitaire, là, ça se développe beaucoup à ce niveau-là.
Marc Santer, un livre très intéressant, un récit sportif qui paraît aux éditions de la presse, un coach parmi des héros. Dernière question.
Oui.
Parce que moi, j'y ai souvent pensé, puis j'aime beaucoup le football, je pense que je dirais que c'est le sport professionnel que j'aime le plus. Quand je dis professionnel, c'est au sens des quatre grands sports.
Mm-hmm.
Marc Santer, j'aurais toujours pensé, rêver que notre niveau de football serait un jour tellement bon, il y a tellement de bons athlètes au Québec. On regarde ce que le Rouge et Or a fait, les Carabins, les Verts et Or, mais aussi McGill et d'autres.
Bien sûr.
Pourrait-on envisager un jour que notre football québécois puisse évoluer dans la structure universitaire américaine du NCAA et qu'on passe aux quatre essais, terrain de football et qu'on soit compétitif?
On s'est posé la question souvent. On nous a posé la question souvent. Je pense que c'est un peu utopique de penser qu'on pourrait établir un niveau de compétition qui serait comparable aux grandes universités américaines.
Pas les grandes, mais mettons NCAA 2.
Oui, mais ça serait intéressant de voir. Mais évidemment, la conséquence, ce serait de mettre au rencard les universités un peu moins compétitives au niveau canadien. Puis là, ça sera à leur détriment. Puis il y aurait juste les grandes universités ici qui compétitionnent à haut niveau.
C'est vrai, parce que là, il faudrait former des équipes où on va chercher la crème de la crème partout autour.
Oui, puis là, on laissera orphelines les équipes un peu plus petites, avec moins de budget, qui ont moins d'athlètes. Puis moi, je suis pas sûr que ce serait bon pour le football et pour le sport universitaire en général.
En tout cas, c'est un livre qui se lit très bien. Belle carrière, Marc Santerre.
Merci beaucoup.
Et beau parcours.
Merci.
Vous qui avez enseigné, entre autres, aux Français...
Oui.
À jouer au foot américain.
Ouais,
au foot américain.
Ans.
Mais les Français ont toute une équipe de rugby.
Ouais.
Et le passage du rugby au football, ça peut se faire?
Ça se fait, mais moi, à l'époque où j'étais là, c'était vraiment là, des mordus de football américain.
Ah bon, c'était pas des transfuges de...
Non, c'était des gens. Là, moi, la première fois que je suis allé coacher, la première pratique que je suis allé, ils sont venus me chercher avec une Transam. À Paris, une Transam, là, on trouvait pas ça partout.
Pourquoi ils ont fait ça?
Parce qu'ils venaient me chercher à l'aéroport, et puis moi, je m'attendais à embarquer dans une petite deux chevaux, puis m'en aller manger dans un bon restaurant français, pour aller manger au McDonald's dans une Transam.
Ben oui, mais c'est parce que vous étiez un coach de football américain.
Avec des footballeurs américains.
Ben, c'était du foot américain.
Voilà.
Mais évidemment, les Européens en avaient eu du foot. Rappelez-vous, à l'époque, ici, de notre équipe... que Jacques Dussault coachait dans la Ligue mondiale, la machine, ils allaient jouer contre Francfort, puis Barcelone,
absolument.
Et puis c'est populaire. Et la NFL, chaque année, présente des matchs.
Il y a un marché là-bas.
En Europe.
Ouais.
Il n'y en a pas eu encore en France.
Non, les Français, ils nous amènent au McDonald's quand on va, mais ils n'ont pas d'équipe.
Non. Mais je parle de la NFL qui va disputer ses matchs à Londres.
Non, ils sont pas, pour une raison ou pour une autre, ils n'ont jamais eu d'équipe internationale.
Comme beaucoup de gens, à une semaine du Super Bowl, Marc Santerre, vous êtes divisé. En ce sens que vous aviez espoir que ces deux équipes-là, San Francisco et Kansas City, s'affrontent.
Mm-hmm.
Et quand je dis on est divisé, mon équipe, c'est les 49ers. Et je le dis pas trop fort parce que, au fond, on souhaite tous que Laurent Duvernay-Tardif devienne le premier Québécois à gagner un Super Bowl.
Je suis dans le même dilemme. Mon équipe est la 49ers, mais j'aime Laurent Tardif. Alors, c'est une situation gagnante.
Moi, je pense que oui. Vous, l'ancien
coach. Gagner, c'est sûr.
C'est un win-win, comme
c'est
on dit.
Ça, exactement.
Marc Santerre nous ferait un discours si les Niners perdent dimanche soir prochain pour nous faire pleurer en disant « Ne pleurez pas ».
Mais vous pleuriez sans moi, là, sans mon aide.
Non, mais mettons que Marc Santerre me faisait un discours pour me remonter le moral dimanche soir prochain. Sans doute, Marc, que vous diriez « Oui, mais c'était un petit gars ». Quand je dis un petit gars de chez nous, Laurent Duvernay-Tardif, un petit gars de chez nous qui a gagné.
Exactement. Exactement. C'est ce
dans
que
le fond, je lui souhaite, mais je ne veux pas que ce soit contre.
Ben moi, je suis un peu comme vous. Là. 49ers, c'est mon équipe depuis longtemps. Mais là, avec Laurent, puis les Chiefs, c'est quand même une équipe extraordinaire à regarder jouer.
Okay.
Là. Alors on va avoir un bon Super Bowl.
Alors, dans la philosophie, dans votre récit sportif, vous pourriez, comme on dit, enclencher les deux, dire dans la défaite, il y aurait au moins une réjouissance, celle de voir LDT gagner.
Exactement.
Marc Santerre, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci
beaucoup. Nous allons faire une courte pause, vous revenir. Ça retarde à Ottawa, on vient de commencer. La ministre fédérale de la Santé, Patty Haidu, vient de commencer le point de presse sur le coronavirus. Ottawa fait le point. Stéphane Boucher suit en ce moment même l'évolution de cette conférence de presse et on vous revient pour le mot de la fin avec la mise à jour.